de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 17 octobre 1996 à Saint-Jean-d'Arts.
Qu'il faut avoir lu si on veut être un homme correct. Si on voudrait que l'éthique est nicomaque, il faut l'avoir lu durant ses études de philosophie. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il ne faut pas lire ça comme on lit le journal, en cherchant les bêtises. C'est le signe. le sens du travail, qui est quand même la grande expérience humaine. Alors, je crois que la grande expérience que le philosophe regarde toujours pour essayer de découvrir ce qu'est l'éthique, c'est le point de vue de l'amour d'amitié. Si vous voulez, nous prenons cela. Pour certains, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Je ne le répéterai pas tout le temps, mais c'est une évidence. L'amour d'amitié seul, l'expérience de l'amour d'amitié, je dis bien l'expérience de l'amour d'amitié, seul permet d'établir ce que représente une éthique, une morale. Parce que me fait toucher ma finalité. Or, il faut découvrir ce qu'est la fin de l'homme. Et en même temps, elle me montre comment l'homme s'épanouit dans l'amour d'amitié. Comment il atteint sa fin et comment il peut l'analyser. Alors, je dis bien, la recherche demeure toujours. Parce que, de fait, pour être absolument certain, on est dans l'ordre pratique. Et donc, il est nécessaire, pour établir une éthique, que les hommes, que la plupart des hommes, que j'ai de la rien. Ça, c'est évident. Ça peut servir pour une rhétorique. Mais ça sert que partiellement pour une philosophie. Alors, on est quelquefois obligé de la faire. C'est pour ça qu'Aristote dit que c'est très difficile de faire une philosophie éthique quand on est jeune. Très difficile. Sauf quand on est chrétien. Sauf quand on est novice à Saint-Jean-d'Arc. Autrement, c'est très difficile. C'est très difficile d'enseigner l'éthique aujourd'hui, dans le climat d'aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas du tout dans un climat qui favorise de regarder nos responsabilités. On essaie par tous les moyens d'éviter ça. On essaie par tous les moyens de supprimer la philosophie éthique. Si on pouvait la supprimer, on aurait un très grande joie. Parce que on n'aurait plus que à chercher ce qui nous intéresse, ce qui nous épanouit, ce qui est notre joie. Mais, de fait, ce qui est plus difficile est notre devoir. On essaie par tous les moyens de le supprimer. Donc, ceci, c'est pour vous montrer que c'est pas commun de transmettre la philosophie éthique. Dans le monde d'aujourd'hui, puisque tout lutte contre la vox populi, qui n'est plus la voix de Dieu, la vox populi va contre par tous les moyens. Si on peut établir une morale instinctive, on le ferait. Si on peut établir une morale de la situation, on le ferait. Si on peut établir une morale du plaisir, on le ferait. Alors, le travail deviendrait quelque chose qu'on doit éviter le plus possible. Et on n'arriverait plus à montrer l'unité profonde de l'homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de véritable regard sur l'homme. Et c'est la très grosse difficulté qu'on a aujourd'hui de faire de la philosophie. Parce que l'aspect pratique, qu'on a remplacé par la psychologie, et c'est pas du tout la même chose, l'aspect pratique n'est plus regardé pour lui-même. Et comment, d'une certaine manière, problèmes qui se posent. Ça, c'est très important, parce que autrement, vous allez gratter sans comprendre du tout. Il faut comprendre pourquoi nous faisons cette analyse de l'amour d'amitié. Vous n'avez peut-être jamais pensé, ça m'apporte peu. Parce que la philosophie éthique peut exister sans vous. Autant que possible, quand elle existe sans vous, vous rattrapez, courez après pour faire une véritable philosophie éthique. C'est-à-dire réfléchir sur toutes vos activités qui sont morales. Si vraiment, vous voyez, bien saisir ça, si vraiment l'analyse de l'amour d'amitié va me permettre de regarder toutes les modalités de mon acte humain moral en étudiant et en analysant l'amour d'amitié. Je fais œuvre philosophique et je suis vraiment en présence de cette activité si importante, cette activité humaine si importante, capable d'étudier d'une manière originale tout ce qui relève de cet amour d'amitié, tout ce qui relève de l'éthique. Voyez bien où nous nous situons et comment nous essayons de découvrir dans cette analyse de l'amour d'amitié toutes les modalités de l'acte humain. Alors, si toutes les modalités de l'acte humain sont présentes dans cette analyse, vous pouvez dire que l'amour d'amitié est vraiment le fondement de l'éthique. Ce qui me semble très intéressant et important. Vous ne pouvez pas dire ça intuitivement. Vous pouvez dire oui, je crois bien que c'est comme ça. Oui, c'est ce que Rieger, dans un des derniers articles, disait. Sans doute, pour reprendre toute une analyse de la morale, aujourd'hui, il faut analyser l'amour d'amitié. Quand j'ai vu ça de la part de Rieger, j'étais très content. Parce que, vous voyez, ça prouve que ceux qui essaient de repenser la morale, de repenser l'éthique, comprennent qu'il faut laisser de côté tout ce qui a été dit récemment là-dessus et revenir à la pensée de Thomas d'Aquin et d'Aristote. Alors là, ce serait une autre étude très intéressante de voir comment l'éthique d'Aristote repose bien sur la et comment l'éthique de Thomas d'Aquin repose bien sur l'amour d'amitié. Alors, quand je réfléchis sur l'expérience de l'amour d'amitié que j'ai, si tu dois aimer qui est aimé, ça me fait comprendre chose. Ce que dit saint Augustin, est-ce que ça rejoint Kant? Quand tu veux aimer, tu aimes. Quand tu veux aimer, tu te dis, tu dois aimer. Alors est-ce qu'à ce moment-là tu aimes? Ou est-ce que l'amour est totalement différent de ce tu dois? Et l'amour est justement la spontanéité, la vitalité qui s'exprime au-delà du devoir. Et il y a une espèce de dialectique entre devoir et aimer. J'ai des quantités, c'est comme ça. Tout ce qui est imposé par la règle n'est pas l'amour. Parce que tu dois le faire. Donc c'est pas l'amour. Par le fait même, on oppose dialectiquement l'aspect moral qui relève de l'amour et l'aspect devoir qui relève du doigt. Des quantités de personnes, pour ne pas dire des quantités de chrétiens, vivent de cette manière-là. Et je suis persuadé que, en vous, il y a des vieux restes de ça. Et la philosophie doit être là. Balayer tout ça et arriver à quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus fort, c'est que votre morale repose sur l'amour dont vous êtes capable et non pas seulement sur un mot, et non pas seulement sur ce devoir. Il y a une distinction entre devoir et aimer. Et en même temps, l'amour est au-dessus. L'amour explique le devoir, et le devoir n'explique pas l'amour. Posez-vous la question comme ça, pour pouvoir discerner d'une façon très nette, en vous, dans votre analyse, tout ce qui relève du devoir, tout ce qui relève de l'amour. Alors, je crois qu'on regarde tout sous une couleur différente. Aujourd'hui, je ne ferai qu'aimer. Quelle journée béatifiante. Je ne ferai qu'aimer. Et puis, le lendemain, comme ça n'a pas été très bien, aujourd'hui, je ne ferai que mon devoir. Je prendrai un air particulièrement sévère pour qu'on ne m'en dérange pas. Je ferai mon devoir. Est-ce que ces deux journées sont les mêmes? Ou bien est-ce que ces deux journées tendent vers les mêmes? Alors au fond, si ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est à cause de moi et en analyser ce que la meilleure peut vous donner. Mais vieille discussion grecque. Et qui revient aujourd'hui avec une force étonnante. On voit très bien. Et on dira que celui qui a choisi la meilleure, c'est un homme sérieux. Celui qui a choisi la plus belle, on dira, pourvu que ça dure. Oui, et les critères sont très très différents. Et pour un ami, c'est comme ça aussi. En dehors absolument du mariage, c'est comme ça. Et quelqu'un de merveilleux, un effet merveilleux et extraordinaire, comme un dieu descendu sur la terre. Et dès qu'on le voit, on le regardera. Mais c'est rare que le plus beau soit le meilleur. C'est curieux. Ça peut exister. Ça existe, mais ça c'est pas de fou comme ça. Et là, au plan philosophique, au plan théologique, c'est très vite fait le choix. C'est évident, la théologie est du côté du sérieux. Et du côté de ce qu'il y a de meilleur. Mais Jésus était le plus beau des enfants des hommes. Il était le meilleur. Alors, c'est merveilleux de voir que le chrétien n'a pas besoin de choisir. La bonté s'impose et la beauté s'impose. C'est pas toujours comme ça. Des gens qui ont un sens d'une très grande beauté, mais alors vraiment un sens d'une très grande beauté. Et au fait, de la bonté, jippy. Ou l'inverse. Vous voyez que dans le domaine du bien, dans le domaine du bien, tout de suite il y a la complexité. Et cette complexité, elle existe dès le point de départ d'un amour d'amitié. Vous ne pouvez pas, dans un amour d'amitié, mettre entre parenthèses le point de vue de la beauté. Impossible. Vous pouvez le faire du point de vue de la sainteté. Le théologien, comme théologien, ne regarde pas beaucoup la beauté cherchée dans Thomas d'Aquin, dans la Somme. Cherchée au contraire dans Plotin. Plotin cherche la beauté, parce que c'est un philosophe. Ça, c'est plus facile, plus vite fait. y a là déjà toute la complexité du bien humain et de l'ami. Dans l'amour d'amitié, on regarde l'ami. Et on a opté pour le véritable ami. Et le véritable ami, c'est quelqu'un qui est bon, qui reçoit ma bonté et qui me donne sa bonté. Et que c'est ça qui compte avant tout. Je crois qu'on peut dire que ce qui est essentiel à l'amour d'amitié, c'est le point de vue de la bonté. On ne néglige pas la beauté. On ne néglige pas l'aspect utile. La santé. Mais ce qui est important, plus que tout, c'est la bonté. L'amour d'amitié me donne l'expérience d'un amour spirituel humain. C'est cela, je crois, le principal dans l'amour d'amitié. Cette expérience d'un amour humain qui implique un choix libre. L'ami, on l'a toujours choisi. Au-delà d'une quantité d'autres. Il est l'unique. Il est l'unique. Et il est préféré. Il y a tout cela dans l'amour d'amitié. C'est très rare que l'amour d'amitié commence. Ça peut arriver. Hein. Commence par une sorte de séduction qui va très loin et qui prend tout. Et qui fait que tout de suite, on regarde l'ami comme celui qui vient vers moi, vers qui je vais, et qui me saisit entièrement. L'exemple de Rachel dans l'Écriture. Parce que c'est très intéressant de voir que dans l'Écriture, vous allez découvrir, si vous lisez l'Écriture en philosophe, vous allez découvrir dans l'Écriture des expériences d'amour, d'amitié étonnantes. Et celui qui s'impose tout de suite, Rachel, à l'égard de Jacob, bien là, il y a quelque chose de très unique. Et c'est le langage de tous les amoureux, d'un amour d'amitié auquel l'aspect spirituel est premier. Parce que quand c'est l'amour passionnel, c'est très différent. Le choix est exclusif. Et le choix est très souvent passionnel. Donc il n'est plus limpide. Il n'a plus la même limpidité dans l'amour d'amitié. Et c'est ce qui caractérise l'amour d'amitié. Il y a un choix absolument limpide. C'est toi que j'ai choisi. Et on le sait. Et ce choix qu'on a fait vis-à-vis de celui considère comme l'ami, est un choix de préférence et pas d'exclusivité, de préférence, qui va beaucoup plus loin. Le côté exclusif est un peu négatif, tandis que le côté qui n'est pas négatif et qui a quelque chose au contraire de très positif, je te choisis parmi tous. Vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, c'est une très grande netteté. Ce serait très beau, on le fera peut-être, de découvrir dans le Cantique des Cantiques tout ce qui est propre à l'amour d'amitié, tout ce qui caractérise l'amour d'amitié. C'est une expérience d'amour.